Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 28, dans l'actualité, la firme Wealthsimple change son fusil d'épaule. Ensuite, comme sujet principal, est-ce que les investisseurs s'attendent à des rendements trop élevés? Un retour sur un sondage de la firme française Natixis. Bonne écoute! Salut James, ça va bien aujourd'hui?
Oui, ça va bien François.
Bon, on a deux sujets intéressants aujourd'hui. Je vais commencer avec le premier sujet qui est sur Wealthsimple qui change son fusil d'épaule. Donc, au début d'octobre, il y a un article dans le Globe and Mail qui a attiré mon attention. Puis cet article-là portait sur les changements de stratégie commerciale de Wealthsimple. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers là, avec Wealthsimple, eh bien, Wealthsimple est la plateforme de robots conseillers, ou en anglais, on dit robo-advisors, la plus importante et la plus connue ici au Canada. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un robo-advisor ou un robot conseiller, essentiellement, c'est une plateforme numérique qui fournit des services d'investissement automatisés basés sur des algorithmes qui nécessitent peu ou pas d'intervention humaine. Comme beaucoup d'autres conseillers. Il y en a à peu près maintenant une dizaine là, ici au Canada. Les clients remplissent un questionnaire en ligne afin de recueillir des informations sur la situation financière et les objectifs de placement. Puis ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer la tolérance au risque et proposer un portefeuille modèle simple, habituellement qui est composé de fonds négociés en bourse. Ce portefeuille sera ensuite géré automatiquement pour vous par la plateforme. Oui, James?
François, Wealthsimple fait les manchettes au Canada depuis plusieurs années. Ça a été fondé en 2014 par Michael Katchen. Et lui, il avait vendu son entreprise, puis il voulait investir l'argent qu'il avait reçu de la vente des actions. Puis là, il s'est créé un programme avec le logiciel Excel. Puis là, il a découvert la science d'investissement. Donc, c'est notre philosophie, la gestion passive. Puis il a implanté ça. Puis il en a parlé à ses chums. Puis là, ses chums disaient « Hey, fais le don pour moi, je suis trop paresseux. »
Exact, exact. Oui, c'est ce que j'avais dit.
Fait que là, lui, il a créé cette plateforme-là et il faut dire qu'ils ont levé beaucoup, beaucoup d'argent. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment, je crois, et de loin, le leader des conseillers robots indépendants.
Exactement. Donc maintenant, si je reviens aux changements qui se produisent là, chez Wealthsimple, le principe de base là, de Wealthsimple à leur lancement était d'offrir à des clients des solutions d'investissement simples et des portefeuilles bien structurés en utilisant des FNB gérés passivement. Ceci dit, l'article de Global Mail m'a incité à aller revoir leur site web et j'ai été un peu surpris, peut-être même choqué de voir tous les changements qu'ils ont apportés à leur offre de services depuis la fondation ou le lancement en 2014, comme tu as mentionné, James. Donc, en plus des solutions d'investissement passif à faible coût, ils ont maintenant élargi leur offre pour inclure une nouvelle application pour faciliter le trading d'actions. Et aussi, tenez-vous bien, des crypto-monnaies. Ils ont maintenant près de 28 crypto-monnaies qu'on peut se transiger, de la plus connue, plus célèbre, si on peut dire, le Bitcoin puis Ethereum, au plus obscur, du moins pour moi, là, les Polkadot, Filecoin, puis ben, comme je l'ai mentionné, il y en a 28 autres, puis il y en a plusieurs là, dont j'ai jamais entendu parler auparavant. Donc, on peut tout transiger ça maintenant chez Wealthsimple. Donc, selon moi, cette nouvelle stratégie est en contradiction avec la mission de la firme lors de sa fondation. En fait, sur leur site web, ils font toujours la promotion des principes de l'investissement passif. Vous pouvez toujours y trouver la citation « L'investissement passif est le moyen le plus fiable de faire fructifier votre argent sur le long terme » ou la citation suivante « Études après études ont démontré que les gens qui font de la sélection de titres ou du stock picking en anglais font moins bien que ceux qui investissent leur argent dans un ensemble très diversifié d'actions. » Ceci, pour moi, la facilité et la rapidité avec laquelle on peut ouvrir un compte maintenant chez Wealthsimple, la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une action Tesla qui se transige à peu près à 1 000 $, bien, vous pouvez acheter une fraction d'action. Les transactions gratuites qui sont offertes chez Wealthsimple, les cotations de titres en temps réel et aussi l'application, que comme j'ai mentionné, pour le trading d'actions ou les disponibilités de crypto-monnaies sont autant de fonctionnalités pour encourager les clients à spéculer et à suivre les dernières tendances et non à investir pour le long terme. Je pense même que ça se prête un peu plus à une mentalité de casino que d'autres choses. En gros, je pense que c'est une évolution qui est négative pour Wealthsimple. Je ne sais pas si ces changements viennent des demandes des clients eux-mêmes ou d'investisseurs privés qui ont investi des millions dans l'entreprise, mais pour moi, c'est définitivement un pas dans la mauvaise direction. En fait, certainement pour les clients qui avaient adopté la gestion passive de portefeuille à faible coût. Pour moi, Wealthsimple ressemble de plus en plus à un loup déguisé en mouton. Les clients doivent maintenant se méfier, faire attention de ne pas être attirés par ces nouvelles fonctionnalités qui auront certainement éventuellement pour effet de vous détourner votre attention de vos objectifs d'investissement à long terme. Mon intention ici, ce n'est pas de dissuader les gens d'utiliser un robo-advisor, mais bien d'avertir qu'avec les nouvelles fonctionnalités, vous tenterez sûrement le diable. Finalement, oui, les robo-advisors, on le sait, sont bien moins chers que de travailler avec un conseiller, mais votre conseiller connaît votre situation et lorsque votre envie de transiger le prochain titre à la mode ou une crypto-devise, bien, votre conseiller est là pour justement vous conseiller et vous faire réfléchir avant de passer à l'action. James, des commentaires?
Oui, j'en ai plusieurs. En fait, comme toi, quand j'ai lu l'article, ça m'a incité à aller revisiter le site web pour voir où ils en sont rendus. Et effectivement, quand c'est sorti, ça faisait beaucoup les manchettes. Nous, c'était en quelque sorte une solution pour les clients, les petits clients, les jeunes qui veulent une application mobile, moderne et qui n'ont pas beaucoup de sous à investir. Alors, c'était prometteur et ça suivait la tendance américaine, des sociétés comme Betterment et d'autres qui se développaient dans cet espace-là. Et en fait, ils ont beaucoup évolué. Ils ont, semblerait-il, presque 10 milliards d'actifs sous gestion dans les différentes plateformes. Je crois qu'il y en a 5 milliards là-dedans dans la plateforme d'investissement passif. Et le reste, ça serait dans les autres, selon ce que j'ai pu croire dans les médias. Mais ils ont toutes sortes de divisions. C'est pas juste qu'ils se sont lancés dans le crypto. Il y a une division pour faire la gestion de l'encaisse, pour faire les transactions, et comme tu as dit, sans frais. Oui. On a vu dans l'analyse de Robinhood, c'est comme on veut développer ce créneau-là. Et moi, je pense qu'il faut revenir à la réalité économique de ces firmes-là. Et l'article fait mention que les joueurs aux États-Unis indépendants qui se sont développés, ils ont découvert que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu, les dépenses en marketing et en publicité, tout le reste, pour aller capter des clients.
Justement, ils ont eu des annonces lors du Super Bowl, je pense.
Oui, mais là, une jeune firme comme Wealthsimple qui annonce ce Super Bowl qui semblerait-il, évidemment, c'est au Canada, là, pas aux États-Unis, mais c'est parmi la pub la plus dispendieuse à acheter. Et donc, ils ont dû faire des levées de fonds souvent. En fait, récemment, cette année, au mois de mai, ils ont annoncé qu'ils avaient levé avec les investisseurs private equity à peu près 750 millions de dollars, je crois, canadiens. Et ça disait que la firme valait 5 milliards. Je trouve ça un peu spécial. Ils ont 10 milliards sous gestion, mais ils tirent des revenus sur les fonds des clients, mais ça vaut 5 milliards. Fait que les investisseurs, eux, ils ont beaucoup confiance. Et en fait, il y a un bon article dans le National Post qui cite un Québécois, Patrick Pichette, là, qui est d'ici, mais qui est devenu le chef des finances de la grande société Google Alphabet. Et lui, il a pris sa retraite, puis là, il travaille avec le fonds Innovia à Montréal dans le private equity, puis eux, ils ont investi. Et pour lui, l'idée, le choix de placement, c'est que, et on le cite dans l'article du National Post, les gens, et en particulier la génération à venir, aspirent à des produits plus simples qui sont liés à qui ils sont, le mobile d'abord. Et ce n'est pas comme les opérations bancaires ordinaires, il y a un réel besoin sur le marché pour une entreprise technologique de fournir des produits pardon, des produits liés au monde numérique. Alors, évidemment, j'ai traduit, la citation est en anglais. On voit que les private equity, ils sont très intéressés à cet espace-là. Mais on a vu aux États-Unis, très rapidement, les joueurs Schwab, Fidelity et Vanguard ont lancé des solutions robots qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'actifs que les Betterment et les autres. Mm-hmm. Fait que il faut se rendre à, en anglais, le terme c'est scale. Il faut avoir un grand nombre d'actifs et clients pour justifier l'investissement technologique. Fait que il faut rentabiliser cet argent-là qu'ils ont levé. Puis j'imagine qu'ils sont rendus en haut d'un milliard d'argent levé pour développer cette plateforme-là. Là. C'est des bidous en bon français.
Oui, il y avait 750 millions en mai, puis je pense qu'en octobre 2020, il y avait un autre 114 millions. Ben oui, on doit s'approcher certainement
mais
d'un milliard.
Pour moi, tout ça, François, on revient à la discipline de placement, la philosophie de placement, d'agir dans le meilleur intérêt du client. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent disponibles plusieurs services à d'autres segments de marché. Fait que pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'ils n'ont pas le choix que de se diversifier, mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? C'est les clients qui le demandent, c'est les investisseurs qui exigent ça ou c'est la vision de l'entreprise qui dit non, nous autres, on va offrir des services dans plusieurs segments. Pour moi, ça me fait penser à la chanson du groupe rock américain R.E.M., quand ils chantent « Losing my religion », je perds ma religion. Fait que c'est un petit peu ça que je pense qu'ils sont en train de vivre. Ils ont eu un choix stratégique, une orientation, puis ils l'ont fait. On veut être une plateforme multisegment. Mais pour le client investisseur, il va falloir que, juste parce que j'ai facilement accès à faire des transactions ou juste facilement accès à transiger des crypto-devises, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être une bonne stratégie à suivre pour ses placements à long terme.
Il va falloir qu'il se méfie un peu. Là.
Donc, à tous les matins, François, on le sait, on se lève, on a le choix. On veut-tu être un conseiller ou est-ce qu'on veut être un facilitateur? Fait que, clairement, ils ont fait le virage stratégique pour dire, nous autres, on veut faciliter la possibilité à nos clients de faire des choses, même si à la base, notre religion, c'était pas ça. Fait que ce sera le test ultime pour Wealthsimple de voir si en bout de piste, ça s'avérera une bonne chose pour les clients.
Excellent. Merci, James, pour tes commentaires. OK, notre prochain sujet porte sur le sondage de la firme Natixis auprès d'investisseurs individuels. Avant de prendre connaissance de ce sondage, je ne connaissais pas la firme Natixis, mais après un peu de recherche, j'ai appris que la firme Natixis est une grande société de gestion d'actifs américano-française qui gère environ, tenez-vous bien, 1,4 billion de dollars US. C'est le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs français. Donc, c'est un regroupement là, en 2006 de la Banque Populaire et du groupe Caisse d'épargne là, qui a créé Natixis. Donc, pour mettre les choses en perspective, RBC Asset Management ici au Canada a environ 400 milliards d'actifs sous gestion. Donc, Natixis a au moins 4 fois plus d'actifs sous gestion que RBC Asset Management. Ceci dit, revenons au sondage. Pour le sondage, Natixis a interrogé 8550 investisseurs dans 24 pays différents afin de savoir comment la pandémie mondiale a affecté leurs finances, leurs émotions et quels ont été les enseignements qu'ils ont tirés de cette pandémie. Donc, James, veux-tu aller de l'avant et nous dire ce que tu as retenu du sondage?
En fait, oui, comme toi, je suis un peu perplexe. Ça vient d'où, ça, le nom Natixis? Puis, effectivement, c'est une des grandes sociétés financières européennes avec des liens américains. C'est le résultat de la fusion que tu as mentionnée. Mais ce qui est super intéressant, premièrement, nous, la solution qu'on préconise comme pour nos clients investisseurs, c'est d'avoir un portefeuille globalement diversifié. Donc, ce sondage, c'est des investisseurs à l'échelle mondiale. C'est un sondage de 2021, donc vraiment basé sur les résultats dans les marchés en 2020. Donc, c'est assez récent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a aussi fait un sondage non seulement auprès des investisseurs, mais on a aussi fait un sondage auprès des gestionnaires de portefeuille professionnels.
Oui, vraiment intéressant.
Il y a un écart absolument astronomique entre ce que les clients investisseurs s'attendent de faire et ce que les professionnels pensent que les marchés vont donner. Fait que c'est ça, en anglais on dit c'est un gap. Et vraiment, c'est plus qu'un gap, là, c'est le Grand Canyon, si on veut. Là. Alors, après de solides rendements en 2020, on regarde dans le marché des actions à l'échelle mondiale, ça a donné à peu près 12,5% de plus que l'inflation.
Mm-hmm.
Mais là, les investisseurs prévoient que 2022, ça va être encore meilleur que 2021. Fait qu'on s'attend vraiment à des gros, gros, gros rendements. Fait que les investisseurs sont très optimistes. Par contre, si on regarde ça du côté des gestionnaires de portefeuille professionnels, eux prévoient que ça va être beaucoup, beaucoup plus bas et en fait, ça va être autour de 5,3%. Et encore une fois, ils ont sondé 2700 professionnels dans 16 pays.
Et rappelle-moi, James,
oui?
James, les rendements les investisseurs s'attendent à avoir pour 2021 puis 2022?
Ils s'attendent à faire 13% de plus que l'inflation cette année et puis 14,5% de plus que l'inflation l'année prochaine. Fait que c'est vraiment énorme. Il y a un beau tableau dans le rapport qui dit qu'en 2014, les investisseurs s'attendaient à 8,9%. Mais OK, il y a beaucoup de ces investisseurs-là, ils ont été investis aux États-Unis, qui a très, très bien fait. Mais là, on est rendu, c'est pas le double, mais presque le double des expectatives de rendement par rapport à 2014.
James, je vais t'arrêter ici. Là. Comment est-ce que les professionnels comme toi là, qui rencontrent des clients tous les jours, toutes les semaines, nous, on a des expectatives de rendement prévu dans le futur de 5,3%, disons. Puis là, les clients, eux, s'attendent à faire du 14,5% en 2022. Comment tu expliques là, le différentiel aussi grand?
Ben, en fait, c'est très simple et il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Ça s'appelle le biais de récence, en anglais, de recency bias. Et ce biais-là, c'est que qu'est-ce qui vient de se passer récemment? Fait que moi, je pense que ce qui vient de se passer récemment, c'est ça qui va se passer dans l'avenir proche. Fait que regardons ça, les rendements étaient super forts. Encore, incroyablement, l'année dernière, on fait face à une pandémie qu'on n'a pas vue depuis 100 ans. Le marché fait un gros bear market, le plus gros, plus court bear market depuis presque toujours dans les marchés publics, depuis les années 20 ou 30 du dernier siècle. Puis là, whop, reprise rapide. Puis on dépasse où on était, puis on a même très, très loin surpassé les valeurs pré-COVID. Fait que ça a tellement repris vite que les gens n'ont pas eu le temps de gérer qu'il y avait une crise d'un bear market. Et on sait que, bien, surtout aux États-Unis, avec les marchés des actions, depuis les creux de la crise financière de 2008-2009, le creux étant en mars, début de mars 2009, on a rien eu des très gros gains. Oui, on a eu de la grosse volatilité négative dans le dernier trimestre de 2018, mais à part de ça, c'était presque directement à la hausse. Puis si on regarde la valeur du Standard & Poor's 500 comme référence, ça a presque quintuplé depuis cette période-là en 12-13 ans. Fait que c'est là que les gens se disent « Ah, regardons ça! » Fait qu'ils sont, quant à moi, l'effet du biais de la récence force les gens à dire « Ah, ben regardons ça. Moi, je suis à l'aise à penser ça. » Mais nous, comme professionnels, on a une vue sur l'histoire des marchés financiers. On fait nos analyses économiques par rapport à faire des estimés, des expectatives. C'est pas des garanties. C'est pas ce sont des estimés des rendements futurs. Puis nous, on est presque pile-poil sur le sondage des investisseurs institutionnels d'à peu près 5,3%. Fait que nous, dans nos conversations clients on et dans les projections financières qu'on fait dans les plans financiers, c'est sûr que ça a plus l'air à ça. Ça n'a pas l'air à du 14,5% net d'inflation. Là. C'est tout à fait irréaliste selon nous. Fait que l'incertitude vraiment qu'on vit à l'heure actuelle, on ne le voit pas par rapport au marché. On pense juste que ça va continuer de super bien aller à la hausse avec des rendements de très, très, très élevés. En fait, trois fois plus élevés que ce qu'on s'attend de faire. Fait que quand on regarde le rapport, il y a aussi d'autres sondages qu'ils ont fait. Ils ont demandé aux investisseurs c'est quoi les principales préoccupations en matière d'investissement.
James, je vais t'arrêter. J'avais quand même vu un autre truc intéressant dans le sondage. Là. Il y a quand même des différences importantes entre pays. Là. Ils ont fait le sondage dans 24 pays. Puis je pense que les Canadiens puis les Allemands qui étaient beaucoup plus conservateurs.
Oui, c'est un bon point, François. Je devrais parler sur ce sujet-là. Ça a l'air que nous, puis les Allemands, on est pas mal conservateurs dans ce qu'on s'attend de faire. Ça reflète peut-être la nature de nos marchés. Les ressources ne sont pas particulièrement bien faites dans nos marchés. Mais il y a d'autres pays comme les Italiens, les Mexicains, les Colombiens qui s'attendent à des rendements très élevés, genre 200% de plus que ce que les investisseurs institutionnels s'attendent. Fait qu'ils sont comme 4 fois plus élevés. Au Canada, on est juste 3 fois plus élevés. Aux États-Unis, l'écart d'attente est de 161%, mais les attentes de rendement des investisseurs sont les plus élevées, soit 17,5%.
Wow.
Et l'attente pour les professionnels est également plus élevée à 6,7%. Encore une fois, j'estime que le biais de récence il impacte les investisseurs professionnels aussi.
Fort probablement, si on regarde les statistiques de marché puis les rendements des marchés boursiers américains depuis quelques années, c'est sûr que je ne veux pas dire que c'est sûr, mais il y a des bonnes chances que le biais de récence ait un impact là, ici sur leurs attentes.
Donc, qu'est-ce qu'on a aussi découvert dans cette étude? Comme je disais tantôt, ils ont fait un rapport sur les 5 principales préoccupations en matière d'investissement pour les investisseurs. Et numéro 1, c'est la volatilité de marché. Deuxièmement, c'est que économiquement, il va y avoir une reprise économique. Ça va être beaucoup plus lent comme terme de croissance que espéré. Fait qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur de l'inflation, numéro 3, les faibles taux d'intérêt, numéro 4, et les hausses d'impôts que les gouvernements vont devoir taxer plus fort pour payer les grosses dépenses, les grosses dettes qui ont accouru pendant la pandémie. Fait que c'est un peu contradictoire tout ça parce qu'on s'estime que ça va super bien aller puis on va faire du 14,5 net d'inflation. Mais en réalité, quand tu as un marché volatile, plus c'est volatile, souvent c'est parce que le marché est surévalué, c'est-à-dire qu'il ne se transige pas à des cours ratio bénéfices raisonnables. Et si on s'attend à une faible reprise économique, ça aussi, ça peut nuire. Ultimement, ça va impacter les sociétés sur le plan financier. Et puis, évidemment, les faibles taux d'un bord puis de l'inflation de l'autre, c'est la contradiction.
Ouais.
Si l'inflation augmente tôt ou tard, ça va impacter les taux d'intérêt. Évidemment, on ne sait pas comment les gouvernements vont finalement s'en sortir par rapport à la dette qu'ils ont accumulée. Là.
Trouves-tu que c'est des préoccupations que tes clients ont, que nos clients ont, James?
La plus grosse que je vois chez nous, c'est numéro 5. C'est que les clients ont peur. Qu'est-ce qui va arriver quand le gouvernement va arrêter de subventionner ça? Puis ils sont tous empressés que le gouvernement arrête parce qu'il y a trop d'histoires ou d'anecdotes de gens qui ne veulent pas travailler, d'employeurs qui ne peuvent pas trouver de personnel pour faire du travail, pour livrer des services ou produire des produits. Et donc, on a l'impression que c'est assez. Est-ce que les gens ont peur de l'inflation? C'est pas un gros point de conversation, c'est plus parce qu'ils lisent dans les manchettes. C'est sûr que quand on fait notre épicerie, on va faire le plein d'essence. C'est sûr que les prix ont beaucoup, beaucoup augmenté. Puis la volatilité, moi, je suis pas d'accord. Quant à moi, à exception de la période au début de la pandémie, ça fait rien que monter. On a eu le quatrième quart de 2018, mais depuis 2009, c'est presque une flèche à la hausse. Là.
Est-ce qu'il n'y aurait pas peur d'avoir une correction?
Là, ça serait de la volatilité, ça serait un bear market qui perdurerait pas mal plus longtemps que celle originellement créée par l'arrivée de la pandémie.
Excellent.
Autre élément d'information, c'est qu'on a demandé aux investisseurs sur le plan de la gestion des finances personnelles, c'est quoi ce que vous avez appris suite à la pandémie? Regarde, je devrais m'assurer que je gère bien mes finances parce que j'ai besoin d'avoir un fonds d'urgence. Puis finalement, il faudrait qu'on ait un plan successoral à jour si quelque chose m'arrivait. Fait que l'impact de potentiellement se faire infecté par la COVID puis d'en mourir, ça a fait réfléchir beaucoup de gens. Mm-hmm. Nous autres, c'est vrai. Nous, ça fait partie du service intégré de s'assurer que les clients ont des testaments et mandats à jour. Mais les professionnels, fait qu'ils l'ont déjà, généralement. Fait qu'il n'y a pas de grands clients qui ont vraiment besoin des changements. Mais les professionnels avec qui on travaille nous disent qu'ils sont débordés.
Ouais.
Ils ont manque de staff, ils essaient de recruter pour faire de la planification successorale. On parle des juristes là, qui sont spécialisés dans le domaine. Mm-hmm. Fait que finalement, au niveau de la finance personnelle, l'autre chose qu'on a découvert, c'est que c'est quoi le rôle que moi, l'individu, avec ma conjointe ou mon conjoint, le rôle qu'on joue respectivement dans le portrait global familial, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Sur le plan de l'investissement, les éléments qu'ils ont découverts, c'est qu'on doit éviter les décisions émotionnelles. Et c'est sûr, n'importe qui...
C'est quelque chose qu'on mentionne souvent, hein, ça, James?
Ça a l'air qu'on n'en parle encore pas assez. Mais il y a des gens qui ont réagi émotivement puis n'ont pas pris les bonnes décisions en 2020, mais ils ont payé le frais avec le marché qui a repris. L'autre point, c'est que les gens ont découvert où étaient les vrais risques dans leur portefeuille. Mais là... Ça tend à faire du 14,5, fait que, encore une fois, je pense qu'ils sont, en anglais, on dit « desensitized », en français, ils sont désensibilisés aux risques réels.
Désillusionnés, peut-être?
Hein?
Désillusionnés, peut-être?
Non, il faudrait qu'ils perdent de l'argent pour être désillusionnés. Ils ont trop fait d'argent en ce moment, là, ils pensent qu'ils peuvent ne que faire de l'argent. Je dis ça, là, en blague un peu, mais en réalité, c'est assez important. Quand ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas subi une vraie perte, puis qu'elle est restée là longtemps, ben on perd de vue le vrai risque.
Mm-hmm.
L'autre point sur le plan des placements, c'est troisièmement, c'était de rebalancer le portefeuille, c'est important. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est sûr, si on a fait des très bons gains, on a un plan d'investissement, on sait c'est quoi, on est supposé être en action, en pourcentage, puis combien en placement sécure, en obligation de qualité courte durée. Bien, ça, si on respecte ça, au moins, on respecte le plan.
Et aussi, ceux qui ont rebalancé leur portefeuille dans la débâcle des marchés en 2020, ils voient qu'ils ont peut-être mieux réussi que d'autres qui n'ont pas rebalancé leur portefeuille là, dans la débâcle.
Ensuite de ça, c'est ils ont sur le plan de placement, évidemment, ils ont à vivre les conséquences fiscales des transactions qu'ils ont faites. Fait que là, ils se sont mis à apprécier à un niveau plus profond, l'efficacité fiscale. Fait que c'est toutes des choses. Nous, on s'occupe de bien gérer sur le plan fiscal, mais des gens qui n'étaient pas au courant, mais là, ils ont découvert que quand on fait des transactions, on peut avoir des conséquences.
Excellent. Bien, il va y avoir un lien sur l'aperçu exécutif de ce rapport dans la description de l'épisode. James, merci beaucoup pour tes commentaires.
Ça m'a fait plaisir, François.
Eh bien, c'est tout pour ce 28e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode dans 2 semaines, alors que nous discuterons, entre autres, des bons conseils de planification fiscale de fin d'année. Avant de terminer, j'aimerais remercier notre réalisatrice, Lise Laplanche, pour sa précieuse collaboration. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à bientôt!